Radio Django. Culture.
Le 12e Festival du Film Vert aura lieu durant tout le mois de mars dans près de 40 villes, entre la Suisse romande, en France voisine et en Suisse alémanique. L'objectif du festival est de faire découvrir des films de qualité sur le thème de l'environnement, du développement durable ou des relations Nord-Sud. Ce soir, pour en parler, nous recevons Nicolas Guignard, directeur du festival. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Okay. Et à vos côtés, Greg Narbel, animateur au Centre socioculturel de Pôle Sud. Bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est avec toi, Jean-Luc, qu'on va parler de ce sujet, puisque tu as potassé cette question pour nous.
Ah oui, potassé.
C'est le cas de le dire.
Potassium, potassé. Ah, ouais. Alors Nicolas, vous affichez comme slogan sur votre programme le cinéma pour un futur durable. C'est un grand défi que vous posez. Le festival se veut militant à l'image de nombreux films qui sont proposés.
Le festival en soi n'est pas un événement militant. C'est plutôt un festival d'information dans lequel on peut trouver des films militants parfois, et parfois des films plutôt descriptifs comme ça. Mais c'est plutôt c'est le contenu qui est militant. Sur la forme, on essaie d'être vraiment un festival d'information. Les gens vont venir réfléchir, être critiques, même par rapport au film. Je pense que c'est vraiment important.
Parce que vous êtes complètement indépendant, en fait. C'est une association complètement indépendante qui n'a jamais été, qui n'a jamais travaillé directement avec un parti politique.
On a forcément des affinités. On a forcément des affinités. Mais c'est vraiment une association indépendante. Oui.
Alors cette année, c'est 58 films qui seront proposés au public, plus de 200 projections, 44 villes différentes, il semblerait plus de sites encore, mais ça...
ça grandit.
Ça grandit. Et comment a démarré le festival? Parce que c'est vrai que c'est 12 ans, ça a démarré assez petit, etc. Quand même quelques mots sur cette histoire qui est assez intéressante.
Oui, c'est assez amusant parce que rien n'était planifié. Au départ, c'était l'envie personnelle de montrer quelques films dans une ville, c'était à Orbe, pas très loin d'où j'habitais à l'époque. Parce que dans mon premier métier, en fait, je suis éditeur de DVD, donc je vois des films. Et puis, il y a des films qui ne passeraient jamais à la télé, qui ne passeraient jamais au cinéma. Je me suis dit, j'ai envie de montrer ça, j'ai envie de partager. Et donc, on a loué une salle de cinéma, et puis les gens sont venus. Et l'année d'après, il y a d'autres personnes qui avaient entendu parler de ce que j'avais fait, qui m'ont dit, ah, mais si tu refais, on aimerait faire aussi. Et c'est comme ça, de manière vraiment improvisée, en fait, que le Festival du Film Vert est devenu multisite. D'abord sur 7 villes, puis 10, 12, 15. Enfin, voilà, pour finir, maintenant, cette année, je crois qu'on est finalement à 57 sites différents, avec chaque fois des équipes autonomes et indépendantes, on va dire, qui gravitent autour et qui organisent un petit événement chez eux, qui font que dans l'ensemble, le festival a une certaine importance.
Mmh. Bon, on entend festival, on dit qu'il y a pas mal d'organisations. Comment justement se déroule cette organisation pour un tel festival décentralisé?
Alors justement, ça s'est mis en place un peu avec le temps, parce que je répète, c'était pas planifié, mais on s'est rendu compte effectivement qu'il y a un certain nombre de tâches qu'on peut faire de manière centrale pour tout le monde. Par exemple, négocier les droits des films, par exemple, faire un site internet ou faire un graphisme, un flyer, faire de la communication. Ça, c'est des choses qu'on peut faire de manière centrale une seule fois pour tout le monde et tout le monde en profite derrière. Et puis, il y a des tâches qui doivent être faites localement, réserver une salle de cinéma ou une salle de projection, faire venir des intervenants après le film, etc. Ça, c'est des choses, et puis être présent le jour même, etc. C'est des choses qu'il faut faire localement. Donc, tout ce qui peut être fait une fois de manière centrale est fait de manière centrale. Et puis après, les groupes localement ont énormément d'autonomie, même pour les prix des entrées, par exemple, c'est très différent d'un site à l'autre. Le programme aussi, il y a une certaine liberté par rapport à ça. Enfin voilà, on a mis en place un fonctionnement de manière un peu empirique, mais qui est assez stabilisé quand même maintenant.
Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a alors des partenaires très différents. Et même dans la programmation, dans la sélection des films, il y a cette démocratie qui est maintenue. Et c'est intéressant à ce niveau-là.
C'est aussi un choix, parce que ça fait partie des valeurs qu'on aime bien et qu'on défend. C'est effectivement une forme de démocratie participative. C'est-à-dire que tous les gens qui participent à l'organisation du festival, par exemple Greg, ici pour Pôle Sud, pendant l'année, peuvent voir les films qu'on a reçus, donner son avis, et puis à un moment donné, tous les gens qui organisent le festival dans les 57 sites se réunissent, ceux qui ont envie et ceux qui ont vu des films, et puis on décide des films qu'on pourra ou qu'on pourra pas programmer pendant l'édition suivante du festival. Et donc là, c'est vraiment poser un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, chaque groupe ensuite peut choisir les films qui l'intéressent, sachant qu'il y a quand même un film commun qui est un peu le trait d'union, le fil conducteur du festival, donc qui est imposé à tous les sites. Mais à part ça, chaque groupe peut faire sa programmation et puis projeter de 2 à 20 films. Ça dépend aussi de la taille de l'organisation locale.
Et la stabilité des groupes qui organisent, les gens continuent assez longtemps à travailler, à s'investir dans ce genre d'organisation.
Alors forcément, on est une association, donc les gens sont bénévoles, et quand il y a quelqu'un qui n'a plus envie ou qui estime avoir assez fait, il est libre de partir. Le problème qu'il y a, comme dans toutes les associations, c'est de trouver de la relève. C'est arrivé une ou deux fois, effectivement, que des groupes se disloquent à cause de départs à l'étranger ou de choses, raisons diverses, et puis ne soient pas remplacés. C'est le cas, par exemple, à Bienne, qui est la seule ville relativement importante où le festival n'est plus présent. Et puis, il y a d'autres endroits où ils ont, pour anticiper ça, ils ont créé des petites associations du Festival du Film Vert localement pour justement avoir un comité et avoir un roulement. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines villes où les gens sont là pratiquement depuis le début. Mais après 10, 12 ans, on peut imaginer que l'effort bénévole, on estime qu'on a assez fait. C'est tout à fait normal. Et puis, voilà, mais en général, si on anticipe un peu, on arrive à trouver de la relève.
Et cette année, quels sont les grands axes de programmation? Parce qu'il y a des tendances dans la production des films écologistes.
Bah, étonnamment, il n'y a pas de film sur le réchauffement climatique cette année, alors que c'est une grande thématique. Mais je pense que c'est un des intérêts du festival, c'est de montrer un petit peu autre chose, de montrer des sujets un petit peu plus pointus. Le cinéma a cet avantage qu'en 1h30 de documentaire en moyenne, on a quand même le temps d'aller pas mal en profondeur des choses. Mais je dirais, le point fort cette année, c'est plutôt les films orientés vers l'espoir, hein, vers les solutions. C'est le cas notamment du film primé par Greenpeace qui s'appelle « Futur d'espoir », qui est le film d'un jeune réalisateur qui s'interroge sur les méthodes d'agriculture, etc., qui dresse dans un premier temps un constat assez alarmiste, mais finalement qui est assez rassuré parce qu'on lui dit, mais regarde, il y a plein de gens qui arrivent à faire autrement et ça marche. Donc voilà, il y a cet espoir-là. Il y a un autre film nominé qui s'appelle « Vivre avec les loups » qui montre comment des bergers arrivent à faire cohabiter leurs troupeaux avec des loups, simplement parce qu'ils ont c'est dans les Carpates, en Roumanie, et ils ont depuis toujours des chiens qui sont habitués à protéger les troupeaux. Ils ne s'occupent pas de dresser ou de faire bouger le troupeau, mais juste de le protéger. Enfin voilà, c'est des solutions, c'est des petits exemples comme ça. Donc c'est un petit peu la couleur cette année, c'est vers des exemples, des solutions, et puis qui donnent un petit peu le mot de tout ça. Ça serait peut-être le titre du film de Marie-Monique Robin, c'est « Qu'est-ce qu'on attend ?». C'est peut-être ce que j'aimerais, en fait, idéalement, que les gens se disent en sortant de certains films, c'est « Qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y ».
Mais là, j'ai quand même une question par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un autre type de gens, enfin de militants, qui commencent à travailler vraiment dans ce domaine-là. Et paradoxalement, quand même, le mouvement écologiste, les partis écologistes, que ce soit en France ou en Suisse, ils ont plutôt moins de voix. Donc on se dirige vers un autre type de militantisme, on se dirige vers un autre type d'engagement par rapport à pas mal de jeunes qui commencent à se lancer dans des projets concrets. C'est ce que... par rapport quand même à une certaine expérience que tu as depuis 12 ans par rapport à ces mouvements-là.
Oui, peut-être. Bon, je pense que l'aspect politique reste important, mais c'est vrai qu'on voit par les urnes, effectivement, que les mouvements politiques verts n'ont pas suffisamment de force pour vraiment... Enfin, ils peuvent donner une petite influence en Suisse, en France, pas du tout. Mais c'est vrai que, par contre, il y a vraiment beaucoup de petites initiatives locales, mais quand on additionne tout, et ça, c'est du concret, c'est pas politique. L'avantage, c'est qu'on a besoin de demander l'autorisation de personnes pour créer un groupe. Il y a des groupes de transition, il y a des monnaies locales, il y a énormément de choses qui se font un petit peu partout maintenant. Et puis d'ailleurs, certains films, notamment le film Demain, qui a eu énormément de succès, certains films, on sent à l'origine de beaucoup de ces initiatives. Et c'est vrai que c'est arrivé que je croise des gens qui m'ont dit qu'ils sont engagés suite à un film qu'ils ont vu dans le cadre du festival. Alors là, ça fait plaisir.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais me diriger vers Greg, hein, parce que ça fait souvent la deuxième année que les centres socioculturels de Lausanne ont repris le flambeau. Mm-hmm. C'est aussi un travail de proximité. Pourquoi, en fait, ce choix l'année passée de rentrer dans l'histoire et de participer à ce festival?
Mais alors, pour Pôle Sud, c'est un peu un hasard. On a été approché par hasard par Nicolas qui n'avait plus de lieu de projection sur Lausanne, et à Pôle Sud, on avait la possibilité de faire trois programmations un peu en dépannage l'année dernière. Ça nous a plu. Des collègues des autres centres de quartier ont été intéressés à se dire « Ah bah tiens, l'année prochaine, comment est-ce qu'on peut y participer ?» Et puis on a mis sur pied un petit groupe de travail où finalement on est maintenant six lieux pour 25 projections cette année. Donc ça, on voit qu'il y a un intérêt de la part des centres dans les quartiers à Lausanne pour faire ce genre de projections.
Et l'idée, c'est d'avoir un travail de proximité, qu'il y ait des débats suite à ces projections. Enfin, on a remarqué que dans certains centres, ils proposent un programme assez intéressant. Quelques mots là-dessus?
Alors oui, ben, selon les quartiers, chaque équipe est en lien avec différentes populations. Certaines projections sont axées tout public avec des activités d'ordre familial, histoire d'habiller un peu simplement le film par une activité toute simple. Mais d'autres sont vraiment ancrées avec des actions très ciblées, comme au Vallon, qui est le premier lieu où il y aura des projections cette semaine. Où, avec le film Food Cop, il y aura une présentation d'un marché aux légumes qui va se monter dans le quartier. Par exemple, à Pôle Sud, on va montrer certains films dans le cadre d'activités qui sont déjà dans des thématiques proches, comme les cafés décroissance ou les notions syndicales aussi, avec le film de Jean Sigler.
D'ailleurs, Nicolas, j'ai l'impression que c'est un peu la marque du festival. Ce n'est pas seulement inviter des réalisateurs, mais aussi essayer de trouver des personnes qui sont soit des spécialistes, soit des gens qui ont des expériences concrètes, pour justement qu'il y ait une animation derrière, que ça soit relié avec la vie peut-être quotidienne des gens, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à l'expérience concrète.
Complètement. Quand on peut inviter les réalisateurs, on est content de le faire, mais c'est pas forcément facile. Certains réalisateurs seront à la soirée d'ouverture du festival le 4 mars à Genève, j'en profite pour le dire, puisque c'est dans quelques jours. Mm-hmm. C'est la journée d'ouverture, c'est là que les prix seront remis, donc effectivement, les réalisateurs viennent plutôt là. Après, évidemment, les réalisateurs peuvent pas aller dans les 57 sites, mais c'est vrai que c'est la marque de fabrique, et c'est un des buts du festival, de faire plus que juste montrer des films. Parce que finalement, les films, on peut les voir peut-être sur Internet, on peut les voir à la télévision, etc. Ce que le festival apporte, bon, c'est déjà un choix de films. C'est-à-dire que les films recommandés par le festival, c'est des choses qu'on a sorties du brouillard, on a fait une sélection, on les a sortis de la masse des films qui existent. Donc il y a ce côté sélection, recommandation du festival. Mais surtout, il y a l'interaction et l'échange qu'on essaye de provoquer après le film, qui est la vraie valeur ajoutée, finalement. C'est ce qui est intéressant.
Et là, vous avez des retours de la part du public ou des organisateurs, par rapport à justement ces soirées qui se déroulent plus longtemps, etc., avec des réflexions.
Oui, c'est très apprécié et ça fait vraiment partie maintenant de la marque de fabrique du festival. On peut pas forcément le faire après toutes les séances. Il y a 240 séances au total. Je pense pas que j'ai pas compté ça après combien de séances il y a quelque chose de prévu, mais c'est certainement la majorité. Après, c'est pas forcément toutes, mais c'est vrai que ça fait partie de la marque de fabrique du festival. C'est un vrai plus.
Alors on l'a dit, hein, vous le disiez à l'instant Nicolas Guignard, l'ouverture officielle ce sera ce samedi le 4 mars de 10h30 à 22h au musée d'histoire naturelle situé à la route de Malagnou-Anst à Genève. Des stands, des tables rondes et des projections de films primés. Quelques mots peut-être sur les événements et les prix décernés cette année ?
Alors dans le festival, il y a toujours trois prix qui sont remis lors de la journée d'ouverture, qui portent pas tout à fait bien son nom parce qu'en réalité les projections commencent déjà le 1er mars, mais bon, enfin voilà,
c'est donc, demain.
Donc déjà demain en Valais et puis à Lausanne, je crois que c'est à partir de jeudi, sauf erreur, hein,
Depuis demain ou Wallon.
Demain aussi, je sais plus. Enfin voilà, le 4 mars, il y aura donc effectivement quatre films qui seront projetés durant la journée. Je précise que tout est gratuit au Muséum d'Histoire Naturelle avec les réalisateurs ou des producteurs qui seront présents avec chaque fois des discussions. On va projeter aussi un film sur la fabrication des vêtements et les conditions surtout dans lesquelles ces vêtements sont fabriqués. Et on aura une Miss Suisse qui sera là pour parler du point de vue, le point de vue de certains usagers de ces vêtements. Mais ça va être très intéressant. Elle est très concernée par ces thématiques. Et puis effectivement, pendant la soirée, on va remettre trois prix. Il y a le prix de la FEDEVACO, donc qui est la fédération qui regroupe différentes ONG d'aide au développement, qui va justement primer ce film The True Cost. Il y aura le prix Greenpeace, je l'ai cité tout à l'heure, c'est Futur d'Espoir. C'est un jeune de 17 ans qui a fait un long métrage absolument étonnant. Et puis le prix Tournesol, qui est le prix du festival. Et là, on ne connaît pas encore le gagnant, puisque le jury se réunira le jour même.
Parfait. Donc, surprise, résultat, samedi, ce sera ce samedi dans la journée. On rappelle que ce 12e festival du film Le Vert aura lieu dans 44 villes de Suisse romande, France voisine et Suisse allemande. Vous pouvez retrouver le programme complet, on l'a sur papier ici, mais vous pouvez le trouver sur internet, festivaldufilmvert.ch. Et vous rappelez encore qu'à Lausanne, des films seront projetés dans 6 centres socioculturels de la Fazel, soit à Bosson, à Bellevaux, l'Espace 44, Aubergière, au Vallon, à Grand-Veine et bien sûr ici à Pôle Sud. Rendez-vous aussi sur le site du festival pour plus d'informations diverses et variées. Merci beaucoup Nicolas Guignard.
Merci à vous.
Merci également à Greg Narbel d'être venu nous parler ce soir de votre festival. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de succès et peut-être de dépasser les 10 000 entrées cette année.
Ah, ça serait bien.
On croise les doigts, on en parlera tout bientôt. Merci beaucoup. Et merci à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet, un sujet à retrouver en intégralité, comme toujours, sur notre site django.fm.